Canalem, on aime l'été.
J'aime pas la chaleur, moi, là.
Moi, j'adore ça.
Je sais. C'était bien en France?
Oui, ben oui, c'était chaud, mais moins qu'ici, mais quand même, c'est bien.
Ça se peut, ça?
Eh ouais.
OK.
Moins qu'ici, ça se peut. Ben, 48...
Non, c'était chaud.
Température ressentie,
ouais. Mais même aujourd'hui, on était tu sais, je veux dire, en fin de semaine, on était bien, puis là, ça repart.
Ouais.
Je suis grognon.
Yeah!
Les gens ne savent pas, mais je suis grognon aujourd'hui. En fait, notre première invitée à qui on va parler, j'ai couru après pendant 2 heures ce matin. J'étais
mais
de mauvaise
humeur,
mais là...
Elle est là!
On va causer de vidéodescription, on va causer de quoi? De
d'histoire,
parc.
On parle de Terre-Neuve et Labrador.
C'est vrai, de rugby en fauteuil.
Ouais, et tout de suite, on revient sur le 10e Comic-Con de Montréal avec Sonia Laflamme qui participe à cet événement depuis 3 ans avec ses enfants.
Mais Jean-Sébastien, il veut écouter la musique.
C'est vrai. Musique!
Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, fame, he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Comes the Spider-Man.
Excellent choix, Monsieur la Liberté. Jean-Sébastien qui est au contrôle. Et Jean-Sébastien, je pense que c'est moi qui ai commencé ça ici. Alors, t'interviens quand tu veux, t'attends pas qu'on te fasse signe, tant que c'est pertinent.
Ben là, faut pas mettre la barre trop haute non plus, là.
Oui, non, t'étais pertinent jadis.
Jadis.
Oui, tout à fait.
Je suis nostalgique déjà.
Excellent choix, d'autant plus que Sonia Calaflamme était au Comic-Con. Il y a Patrick, je présume, qui est au téléphone.
Oui, bien sûr.
Salut, Monsieur Patrick.
Bonjour.
Sonia, dites bonjour à Patrick.
Bonjour, Patrick.
Ouais, bonjour.
C'est parce que j'espérais que quelqu'un me donne ton prénom, Patrick.
Patrick Kemner.
Kemner, OK, c'est pas écrit sur ma feuille. D'abord, est-ce que je peux vous remercier tous les deux? Parce que Patrick, je pense qu'il a dit oui il y a 12 minutes. pour cette entrevue-ci.
Ça fait vraiment pas longtemps. Là.
Sonia, il y a une heure et demie. Alors, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Et en même temps, c'est super sympathique parce que moi, je ne comprends pas le phénomène, bien que les journaux en parlent chaque année. C'est le 10e Comic-Con montréalais. Il y en a partout sur la planète. Apparemment que vous étiez 60 000 cette fin de semaine à faire tourner les tourniquets. Bon, je sais qu'il y a grandeur nature, puis qu'on aime la créativité. Puis Sonia, t'es auteur en jeunesse, donc t'as des idées plein la tête, mais encore, c'est du trouble faire ces costumes-là, parce qu'on les achète.
Il est tu grognon
ce matin? On les achète pas, ces costumes-là.
Ben
là.
Non, ça brise le plaisir.
Ouais. Patrick, qui fait tes costumes? C'est toi, tes achètes, tes loups?
Moi, je me suis pas costumé. J'étais là juste pour les artistes, mais je lève mon chapeau à Sonia parce qu'elle trouve le moyen de faire des merveilleux costumes avec très peu de morceaux pas super dispendieux comme certains gros fans au Comic-Con. C'est vraiment chouette, puis je lève mon chapeau. Là.
D'y aller sans se costumer... Est-ce que c'est un peu rabat-joie comme celui qui passe Halloween puis qui ramasse les bonbons mais qui se costume pas? Est-ce que c'est bien vu, Sonia?
Je dirais que c'est pas une très bonne comparaison,
non, okay.
Mais c'est comme aller d'un festival. T'sais. On n'est pas obligé de se déguiser, mais disons qu'on se rince là pas mal parce que c'est les gens sont tellement, tellement bons avec leur costume. Là. Ouais.
Donc, on peut être avec des enfants costumés puis ne pas l'être et profiter du spectacle.
Toi, Sonia, tu y vas avec les jeunes?
Oui, je vais toujours au moins une journée seule ou avec des amis, puis une journée avec les enfants.
Et c'est quoi alors le Comic-Con pendant 3 jours? Qu'est-ce que vous faites?
Ben, on visite les kiosques, on visite les artistes, on regarde un peu qu'est-ce que les autres cosplayers, costumadiers ont fait. Quand on en voit qui sont vraiment hallucinants, étonnants, je me permets d'aller les voir, de leur demander « Ah, comment tu as travaillé? C'est quoi ce matériau-là? Comment tu l'as travaillé? » On s'échange des trucs. Puis même, tu vois, vendredi, sous mon casque, j'avais une sorte de loup que j'avais dessiné directement sur mon visage.
Ah, ouais.
Et puis quand j'enlevais mon casque, il y avait comme des bouts de peau qui paraissaient tout d'un coup. Et puis là, je venais de payer une photo parce que c'est mon anniversaire bientôt. Puis je voulais m'offrir m'offrir une photo avec Val Kilmer. Mm. Et puis là, je me disais, non, je peux pas y aller avec des spots blancs sur le noir. Et puis là, j'ai décidé d'arrêter quelqu'un, une costumadière sur place qui avait du noir dans le visage. Et je me suis dit, hey, t'as-tu du noir? Tu pourrais-tu m'en remettre? Elle m'en a mis. C'est vraiment, c'est amical, c'est vraiment sympathique. Et puis voilà.
Est-ce que les gens qui arrivent costumés paient moins cher leur entrée? Parce que, comme Patrick, tu le soulignais, quelque part, ils font de l'argent avec ceux et celles qui s'investissent, là. Donc, est-ce qu'on donne une ristourne à ceux qui se costument?
Vraiment, parce que c'est les gens qui vont là, ils ont l'avantage de pouvoir participer à la mascarade le samedi et aussi, mais ils ont le désavantage d'avancer à peu près 1 mètre à la minute parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui veut prendre une photo, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, pour les gens qui veulent aller au Comic-Con et veulent se déguiser, il faut qu'ils s'attendent à se faire prendre en photo très souvent. C'est juste ça que j'ai remarqué, et puis... c'est super, par exemple.
Ouais. Sonia, tu disais, Patrick, son expérience est bien différente de la mienne.
Oui, bien, il va en tant qu'auteur de fanzine aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça, il est plus près des artistes que moi. Moi, je suis plus un peu, je pourrais dire, dans le show-off, là, dans l'exhibition. Mm-hmm. Je veux montrer mes créations. Tandis que Patrick vit un Comic-Con un peu différent.
En fait, Patrick, vous venez vous inspirer des personnages sur place?
J'ai pas vraiment de problèmes d'inspiration. J'ai même trop d'idées. J'ai pas assez de temps pour tout m'exprimer. Okay. Mais je vais surtout là pour encourager les artistes et puis les supporter, comme une de ma dessinatrice qui s'appelle Angie Morancy-Major, qui vit à Laval. Mm-hmm. Elle était là, Comic-Con, avec son ami, et puis on a elle avait eu beaucoup de plaisir, elle a eu beaucoup de clients. Et ben moi, quand j'arrête souvent les gens que je trouve qu'est-ce que je vois, c'est vraiment super ce qu'ils font. Puis je leur parle, puis je leur dis, je les encourage des fois, j'achète un petit truc aussi. Ouais.
Est-ce qu'on est capable de se renouveler d'année en année, ou on commence à reconnaître les mêmes kiosques, les mêmes types d'activités?
Non, c'est des fois, comme j'en ai rencontré plusieurs en fin de semaine, puis ils disaient, ah non, j'étais pas là l'année dernière, j'étais là 4-5 ans, mais ça varie d'année en année. Ouais. Même chose pour les artistes, en passant, juste un petit à côté, John Barrowman, il était vraiment drôle.
Et qui est-il pour un néophyte comme moi?
La série Arrows.
Okay.
Arrow sur Netflix et compagnie. Là. C'est lui qui fait le personnage principal et puis il était très coloré.
Sonia, l'importance d'être juste, d'avoir le détail, d'avoir une réplique la plus... Est-ce qu'il y a de la place pour de la créativité ou non, au contraire, faut...
Ben jusqu'à maintenant, j'ai surtout fait de la reproduction. J'ai fait Wonder Woman, Albator et trois autres personnages de la série, Docteur Zéro, Stelly et Clio. J'ai fait aussi version féminine du Joker. Oui, il y a... ben il faut être très précis. Puis ça, je pense que ça vient un peu de mon côté écrivain. Quand je crée mes personnages. Je trouve que c'est un beau parallèle, créer un personnage fictif sur papier puis en créer un physique. Je trouve que c'est un beau complément. Mais c'est vrai que j'essaie toujours d'être le plus juste possible, d'aller chercher sur Internet tous les détails possibles du personnage que je crée. Et non, il n'y a pas beaucoup de place à la créativité. Je pense que c'est surtout la créativité dans le comment je vais arriver à faire ça.
Ouais.
C'est surtout comment je vais arriver au produit final. La créativité, elle est plus là. Tandis que cette année, j'ai fait des costumes d'inspiration médiévale, puis là, je me suis vraiment lâchée.
Là, il y a de la créativité.
Lâchée lousse, comme on dit.
D'ailleurs, Luc, Sonia était dans le 24 heures aujourd'hui avec ses deux enfants. En photo, donc, déguisée, famille ouais. médiévale.
Oui,
très
on pouvait
chouette.
Le voir dans le 24 heures.
Mais avant d'entrer, tu me disais que tu étais en book cette fin de semaine?
Oui, en fait, j'étais en faune, qui est une espèce de satyre, donc un être fantastique, moitié...
c'est sur deux jambes ou quatre jambes? Une faune?
Moi, j'avais deux jambes, okay. En tout cas. Donc, j'avais un casque avec des cornes de bouc. Et je mettais, avec mon cordonnier, j'ai mis à contribution mon cordonnier. Je lui ai fait clouer des chaussures de danse, la pointe des chaussures de danse sur des sabots que j'avais, des blocs de bois en forme de sabots que j'avais fendus sur le devant pour donc simuler le sabot du bouc.
Puis le...
Et je marchais pas vite. Tantôt, Patrick disait qu'on fait un mètre à la minute. C'est à peu près la vitesse que je parcourais le salon.
Sonia Laflamme, vous êtes écrivaine, mais vous êtes aussi bénévole à Vues et Voix.
Oui.
Vous êtes atteinte de la maladie de Parkinson.
Oui.
Ce qui vous empêche pas de coudre, de faire non. tous ces costumes qui vous prennent chacun au moins ouais. trois semaines à réaliser.
Ouais. Ah, ben, trois semaines!
Oui, okay. À peu près chacun. Mais pour moi, ça a été vraiment une riposte. Je me suis dit, si je me mets à trembler de mes mains, ça veut dire que je ne pourrais plus rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Je veux occuper mes mains. Puis je pense que par rapport à d'autres parkinsoniens, j'ai encore une belle agilité. Et puis pour moi, ça, c'est important de dire... C'est un peu comme un pied de nez que je fais à la maladie. Mmh. C'est un peu comme dire, wow, tu m'auras ouais. pas, en tout cas pas tout de suite, puis je me laisserai pas abattre. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile.
Il y a à peu près 4 ans, la première fois qu'on s'est vu, je t'ai mmh. suggéré d'écrire là-dessus. Est-ce ouais. qu'il s'en vient, le livre, ou...
Je
vais-tu le lire un jour, ce livre-là?
Oui, parce
qu'il n'y en était pas question au début. Tu voulais absolument pas parler de ça.
Non, c'est vrai, mais oui, c'est en cogitation.
OK.
Oui.
OK. Patrick, toi, ta vie, tout va bien? Parce que là, on est comme à la voix, hein? Bon, Sonia, le Parkinson, toi, qu'est-ce qui marche pas, Patrick?
Il y a beaucoup de mortalité dans ma famille.
J'étais à un funérail samedi.
Ouais, c'est pas chouette, là, mais bon, faut vivre avec ça. Ouais, ouais. Mais à part ça, ça va bien.
Le plus beau costume que tu as vu alors en fin de semaine?
Ah, ben il y a ma favorite qui est revenue. Je ne sais pas c'est quel personnage, probablement un personnage de Star Wars. C'était une dame en blanc avec de... C'était vraiment chouette, mais j'ai
vu... C'est pas la Reine des Glaces?
Pardon?
La Reine des Glaces?
Oui, elle était là.
Elle était
pas elle, mais elle était vraiment chouette. Il y avait aussi... Il y avait un très beau Deacon de Walking Dead. Il était vraiment super. Il y avait un Conan, ça, tout le monde le connaît. Mm. Mais le gars, il était musclé naturel. Et puis, il avait vraiment le même visage. C'était vraiment chouette.
Ben, ouais. Je l'ai vu et je me suis dit, merde, j'aurais dû me déguiser en Red Sonja.
Ah oui, oui, oui. Puis ma fille était là, puis disons qu'elle était charmée par...
je comprends tellement rien à tout ce que vous dites. C'est fabuleux, c'est fabuleux. J'aime ça, moi, des adultes qui se lancent comme ça dans leur plaisir.
Mais tu savais ce que disait, Cervantes?
Il a dit pas mal de choses.
Il a dit pas mal de choses, mais il a dit, garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été.
C'est beau, c'est beau, il n'y a
on
pas tort.
On va
causer audio description après la pièce qui suit.
Merci.
Merci Patrick et Sonia.
Merci.
Merci.
Jardin d'amour, petite
C'était Petite Fleur, une reprise d'Henri Salvador par Thérèse Montcalm. Et aujourd'hui, à nouveau en studio avec nous, Stéphane Brisebois, président fondateur des services Technolead, qui nous parle d'un nouveau système de vidéodescription qui vient tout juste d'être lancé il y a un mois environ. Bonjour, monsieur
Brisebois.
Bonjour.
Bonjour à vous deux.
Donc, ce nouveau système, est-ce qu'il révolutionne la vidéodescription pour les personnes qui en ont besoin?
D'ailleurs, il faudrait mettre quelque chose au clair, là. C'est fun. Aidez-nous. Est-ce qu'on est audio-description, vidéo-description?
Vidéo, exact.
Bon débat, Luc. Écoutez, je vous dirais que j'ai le billet de passer vers l'audio-description parce que je travaille aussi avec les Anglais et les Français qui ont adopté ce vocable, alors que l'Amérique du Nord utilise aux États-Unis « describe video », et par transposition ici au Québec, on parle de vidéo-description.
C'est un anglicisme alors?
Ah, je ne saurais vous dire, mais je ne veux pas essayer de régler ce débat ici.
Aujourd'hui qu'on va régler ça.
Non, mais je pourrais passer de l'un à l'autre durant l'entrevue.
Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce système? Qu'est-ce que ça change?
Eh bien, là où on se différencie en quelque sorte des manières traditionnelles de produire des audiodescriptions, c'est qu'on utilise des technologies de pointe. Mmh. En fait, on bénéficie de 15 années personnes de recherche qui ont été faites au Centre de recherche informatique de Montréal. Une technologie de pointe qui a déjà été utilisée pour des projets ici au Québec, au Canada. Et par ailleurs...
dont, entre autres, certains disponibles au SQLA de BANQ.
Exactement. Ouais, donc, on partage l'ADN de cette solution-là. Mais notre objectif n'est pas de répondre aux utilisateurs finaux. On travaille plutôt pour les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs qui, eux, veulent offrir, dès le départ, un contenu qui est audio décrit ou vidéo décrit.
Donc, on enlève l'emploi aux scripteurs? Et on demande à un logiciel de le faire?
Bien au contraire.
Okay.
On offre dans un premier temps un contexte qui permet aux vidéodescripteurs d'avoir une idée d'où ils se situent dans le projet, de savoir qui sont les comédiens qui apparaissent à l'écran. Donc de contextualiser tout leur travail, mais aussi de leur donner une rétroaction immédiate, à savoir où sont les silences dans les scripts pour qu'ils puissent introduire une description de ce qui se passe. Et combien de temps ils ont, effectivement, pour pouvoir décrire la scène.
Ça leur donne une image de, de la façon dont ils vont travailler, assez claire et rapide.
Exactement, et ça leur permet, par ailleurs, de se concentrer sur le travail créatif. Et dans un deuxième temps, on innove aussi au niveau de l'enregistrement de l'audio, donc la piste qui se retrouve diffusée par le grand diffuseur. Celle-ci, elle est soit enregistrée avec nos outils qu'on a développés à l'interne, qui nous permettent d'accélérer la vitesse d'enregistrement, et par ailleurs... Pour une deuxième option, la version voix de synthèse, on prend une voix de synthèse de dernière génération qui fait qu'en quelque sorte, on a une piste audio en quelques minutes à peine plutôt que d'attendre 2-3 jours le temps de convoquer des comédiens, d'enregistrer, de nettoyer la piste et d'équilibrer la bande sonore.
Ça, j'avoue que ça me chatouille négativement. Mm-hmm. Qui détermine quel type de voix sera utilisée pour un produit donné? Le diffuseur?
C'est le marché qui décide.
Le client?
Et le client. Et on s'entend que lorsqu'on produit, par exemple, un documentaire pour la CBC, ils ne vont pas opter pour une voix synthèse. Ce n'est pas approprié.
Le budget va avec aussi, j'imagine.
Exactement. Notre ambition avec la voix de synthèse, c'est plutôt de démocratiser la vidéodescription en abaissant les coûts et en rendant un plus grand nombre de produits, de médias disponibles à ceux qui ont un déficit visuel.
Parce que, j'avoue, là, je n'ai écouté deux, là. J'ai de la difficulté. Et je me dis...
T'as de la difficulté.
C'est que la voix, le bon narrateur qui fait de l'audio description va avoir le ton approprié à la scène. Il y en a qui sont toujours sur le même ton et je pense qu'ils errent quand ils font ça. Et la synthèse ne peut pas t'offrir ça. Et je me disais, pourquoi nous, on devrait subir ça alors qu'on ne on fera jamais ça en doublage? Je veux dire, on va toujours prendre des voix humaines justement pour avoir la bonne émotion, la bonne... Mais nous, soi-disant, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de marché, il faut couper les coins ronds en se disant, bon, ben, ils ont utilisé Jaws toute leur vie, donc ils vont être capables d'endurer ça.
Tout à fait d'accord
avec
vous.
C'est pas de votre faute à vous, là?
Tout à fait d'accord avec vous, M. Fortin. Notre ambition n'est pas de pousser la voix de synthèse pour remplacer la voix humaine. Notre ambition, c'est qu'il y a certainement des situations... Par exemple, dans un contexte d'enseignement, dans un contexte corporatif, dans un contexte aussi de vidéos de formation pour les employés du gouvernement, par exemple, où là, tout
pas
à
besoin
coup,
de ton,
voilà, exactement. Où là, on n'a pas les budgets et ce n'est pas un produit créatif, c'est un produit soit éducatif, de formation. Et là, dans ce cas-là, cette piste-là doit être considérée. Mais notre ambition n'est certainement pas de pousser la voix de synthèse et de passer à côté d'avoir... la description chaude, comme vous le disiez tout à l'heure, avant l'entrevue, d'un Paul Sarrazin, par exemple.
Ouais. En septembre 2019, à partir de 19h jusqu'à 23h, chaque jour, il devrait y avoir du contenu avec audiodescription au
Canada.
Nouvelle
loi du CRTC.
Ouais. Est-ce que le reste de la planète avance comme le Canada commence sérieusement à offrir?
Effectivement, février de l'an dernier, la CEE a pris des résolutions à l'égard d'une hausse des contenus qui sont adaptés, d'une part, aux malentendants et aux malvoyants. Donc, ça vient répondre à votre question. Mmh. Il y a des décisions qui ont été prises. Bien évidemment, la politique gouvernementale européenne était tellement lourde. Ça va prendre quelques années avant que ça percole et que ça descende au niveau national dans des résolutions qui sont prises par les différents pays membres de la CEE. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui se passe aussi au sud de la frontière. Ce qu'on note chez nous, c'est une mobilisation des gens des communautés d'intérêt qui commencent à faire ce que les malvoyants ont fait il y a quelques années. Les malentendants ont fait il y a quelques années. Et donc, les malvoyants se mobilisent et commencent à s'assurer que leurs droits soient tenus en compte. Et que
La FCC n'a pas encore régulé de ce côté-là?
Il y a des balises, mais ça n'a rien à voir avec ce que le CRTC va imposer au Canada. Et en quelque sorte, il faut voir ça comme une opportunité pour nous d'utiliser notre contexte réglementaire pour prendre une position de tête, de chef mondial dans ce secteur-là.
Donc, pour vous, il y a des marchés internationaux là, qui s'ouvrent.
Effectivement. Nous sommes représentés par une société qui a des bureaux en France, en Angleterre, à Burbank, en Californie. Et déjà, on vise à ce que nos technologies, nos solutions soient utilisées pour répondre à des besoins tels que ceux de Netflix, qui par ailleurs est un précurseur dans le domaine, qui a déjà une série de titres qui font partie de leur Netflix Originals, leur propre production interne, qui sont maintenant audio-décrites.
Oui, je me demande si, mis à part AMI et AmiTélé, si ce ne sont pas les plus grands diffuseurs de ce type de contenu-là. Vraiment, on est gâtés. C'est une des raisons moi, pourquoi je suis abonné à ce service en streaming plutôt qu'à d'autres. Est-ce qu'il y a des gens qui se font tirer l'oreille ou jusqu'à maintenant, en terminant, c'est bien accueilli, votre nouveau bébé?
Écoutez, on fait face au contexte où il y a déjà des joueurs en présence qui offrent des services intégrés de post-production. Alors, on se démarque parce qu'on se concentre vraiment là-dessus. C'est notre focus. Et évidemment, on est fiers de commencer avec des projets de très haut calibre, tels que des productions pour la CBC au niveau anglophone, qui sera d'ailleurs diffusée aussi par la BBC les deux cet automne. Donc, on commence avec des projets de grande envergure.
Ouais. Super, ben on vous souhaite le meilleur.
Merci, c'est un grand plaisir.
Plus d'audiodescription dans le monde.
Oui, on s'en souhaite. Stéphane Brisebois, donc président des services TechnoLeads Inc. Petite pause et de l'autre côté, entre autres... on parle de chaman et du parc Frédéric Bach, pas loin de la Tohu.
Vous écoutez Aime l'été.
Et restez avec nous car nous allons parler de sport adapté avec Émilie Bouchard en route vers le championnat du monde pour l'équipe de rugby en fauteuil roulant. Et tout de suite, Sébastien Lafleur qui nous parle d'un parcours de réalité augmentée au parc Frédéric Bach.
I've got a smile on my face and I've got four walls around me. I've got the sun in the sky, all the water surround me. Oh, you know. Yeah, I win now and sometimes I lose. I've been battered, but I never bruise. It's not so bad. And I say, wait, hey, it's just an ordinary day. It's all your state of mind. At the end of the day, you just got to say it's all right. The genie sings on the corner, what keeps her from dying? Let them say what they want, she won't stop trying. Oh, you know, she might stumble.
push her out. She might fall, but she'll never lie down. It's not so bad. And I say, wait, hey, hey, it's just an ordinary day, and it's all your state of mind. At the end of the day, you just got to say it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. In this beautiful life, there's always some sorrow, and it's a double-edged knife, but there's always tomorrow, you know. It's up to you now if you sink or swim. Just keep the faith that your ship will come in. It's not so bad. And I say, wait, hey, hey, it's just an ordinary day, and it's all your state of mind. At the end of the day, you just got to say, I say, wait, hey, hey, it's just an ordinary day, and it's all your state of mind. At the end of the day, you just got to say, it's alright. 'Cause it's alright, it's alright. 'Cause I've got a smile on my face, and I've got four walls around.
Formation de Terre-Neuve-Labrador, on voulait entendre Great Big Sea parce que justement, avec Serge plus tard à l'émission, on va découvrir Terre-Neuve et Labrador, Ordinary Day de Great Big Sea. La Société d'art technologique et la TOHU se sont associés avec l'organisme une école montréalaise pour tous pour la création d'un parcours de réalité augmentée au parc Frédéric Bac. Et si on peut y aller jusqu'au 7 octobre, ce qui est intéressant, entre autres, c'est qu'on a demandé la contribution de classes, d'écoles primaires, de la CSDM, pour en parler. Désolé, Sébastien, lorsque... j'avais pas ton nom de famille.
La Fleur.
Merci. Sébastien Lafleur, qui est responsable du projet. Salut Sébastien, merci d'être
Bonjour,
là.
Bonjour, merci de me recevoir.
Qu'est-ce que la réalité augmentée? Je sais que, bon, les gens qui aiment la technologie ou qui voient sont probablement déjà au fait, là, mais comment décrire la réalité augmentée à une personne aveugle?
Bonne question. Ben, en fait, c'est certain que c'est dans l'air du temps. On parle beaucoup de réalité virtuelle.
Ouais.
Donc, on peut mettre des casques, on est fermé du réel ou on veut une expérience, type on peut tomber dans un film, dans un espace de jeu vidéo. Virtuel, mais la réalité augmentée est en fait d'utiliser des outils, des applications maintenant qui sont disponibles sur téléphone intelligent, où on peut agrémenter le réel d'éléments numériques. Donc, porter un casque, mais sans être coupé du réel et ajouter des éléments. Donc, il y a des petites applications aussi plus accessibles, plus simples, qui nous permettent par exemple d'associer une image à du contenu numérique. Donc, avec notre téléphone, on va pouvoir scanner des images et on peut activer une vidéo. Ou musique ou autre. Donc, ça devient vraiment une façon de faire des parcours interactifs.
On télécharge ça sur Google Play ou App Store dans les deux cas?
Oui, exactement. Okay. Il y a plusieurs différentes plateformes maintenant accessibles. Donc,
on fait gratuit. Ça avant d'aller au parc?
Oui, pour le projet du parc, en fait, toute l'information est sur le site de la TOHU et sur la SAT. Donc, vous pouvez avoir le plan du parcours pour découvrir le parc et aussi toutes les indications pour télécharger l'application.
HP Reveal.
Exactement.
Le nom de l'application. Et alors, donc ça, c'est au parc...
Si vous n'avez pas compris, là, elle a essayé de dire HP Reveal.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il est grognon, celui-là? Bref, le parcours au parc Frédéric Bac, ça parle de quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on peut y voir?
En fait, c'est un gros projet. Je pourrais vous parler un peu du départ, tous les partenariats avec les différents organismes qui ont réussi à créer ce parc-là, ce projet-là. En fait, ça commence avec une école montréalaise pour tous qui a vraiment comme vision et mandat d'offrir une égalité de chance, égalité de succès dans les quartiers un peu plus des écoles, des quartiers un peu plus défavorisés de Montréal. On a aussi collaboré avec la TOHU qui sont aussi partenaires dans le projet, mais responsables de faire la diffusion de ce nouveau parc.
Mm-hmm.
Puis ont déjà à la base un volet pédagogique pour les enfants, pour les jeunes qui au niveau écologique, puis au niveau du cirque aussi, de créativité. Et bien, la SAT, Société des arts technologiques, ça fait, on connaît beaucoup la SAT pour ses projets plus de recherche innovateurs en arts technologiques, mais on a aussi un volet de formation. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on offre des formations régulières. Donc, on n'est pas une école, mais un centre de perfectionnement et de formation pour des sujets cibles.
Donc, vous avez formé les élèves à faire des...
Oui, c'est ça. Mais depuis plusieurs années, on développe vraiment le volet jeunesse, donc des projets de médiation culturelle, des camps pour les jeunes, pour l'initiative aux technologies. Et dans ce projet, en tant que tel, ben, on s'est rassemblés tous ensemble, on a regardé nos mandats, nos visions, et on a réussi à créer un... rassembler quatre classes de deux écoles, l'école Saint-Jean de Mata et... Saint-Albert-le-Grand, pardon.
Oui, Saint-Albert-le-Grand.
Donc, on a réussi avec quatre classes, donc de 5e et 6e année. On les a premièrement initiées au projet du parc, la revitalisation de l'ancienne carrière Miron, qui est quand même un projet très ambitieux. Ça vaut la peine d'aller s'informer pour en parler, j'imagine, davantage. Et ensuite, donc, la TOU est intervenue, sensibilisation au niveau écologie du parc, la revitalisation du centre. Ensuite, présentation de l'œuvre Frédéric Bach.
Mais oui, est-ce qu'il connaissait l'homme qui plantait des arbres?
Certains connaissaient un petit peu, mais ils ont tous été très curieux, très intéressés d'apprendre. Mm. Je pense que ça a été vraiment la beauté du projet, c'est de voir à quel point les jeunes ont embarqué. Ils nous ont reparlé des œuvres de Frédéric Bach par eux-mêmes. Ils sont allés voir des films qui sont tous accessibles sur l'ONF ou sur le site de la Radio-Canada. Donc, très beau projet. En fait, qu'on a utilisé les techniques de départ de Frédéric Bach, donc techniques de découpe où on fait des dessins. Les jeunes ont fabriqué leur propre dessin, créé leur propre scénario.
Fait de l'animation, donc?
De l'animation, donc image par image. La seule contrainte était un peu dans la thématique de Frédéric Bach, de s'inspirer de la nature. Et ça nous donnait au total un parcours de 36 petits films qui ont été créés par les jeunes. Donc, on peut, avec l'application qu'on télécharge gratuitement, on peut parcourir le parc et découvrir les petites vidéos.
On voit sur le long du parcours, on arrive, il y a des petits panneaux, on lit les panneaux avec nos téléphones, on pointe, puis là, il y a une réalité augmentée qui s'ajoute.
Exactement. Donc, le parcours est en fait très accessible. Donc, même gens à mobilité réduite, vous pouvez vous déplacer dans le parc. Les pancartes sont situées vraiment en bordure du chemin. Puis, vous avez qu'à prendre votre téléphone, fixer l'image qui est imprimée sur la pancarte et la vidéo va s'activer automatiquement.
Et est-ce que, question piège, il y a de la vidéo description sur ces images?
Malheureusement, non.
Et est-ce qu'on sait si, à tout le moins, les panneaux sont soit lus ou est-ce que le film est ajouté d'une narration?
Pour le moment, non, mais on avait pensé aussi intégrer peut-être éventuellement un autre parce qu'on peut aussi faire la réalité augmentée avec du son. Donc, peut-être intégrer un parcours sonore relié au projet, ou peut-être dans une année,
deuxième phase
du projet, définitivement. Puis, en fait, je dois dire, le parcours est venu par la suite, parce que le projet a pris de l'ampleur, les jeunes étaient très motivés, ont fait des œuvres de très grande qualité pour des élèves de 5e et 6e année. Puis, on a décidé de justement poursuivre le parcours, au lieu d'être seulement un projet d'inauguration pour les écoles, ben de l'ouvrir au public. Donc, c'est gratuit, les gens peuvent se déplacer voir les films. Peuvent aussi découvrir l'application, peut-être s'inspirer, faire leur propre projet. C'est un projet aussi qui peut être récupéré par différents enseignants. Donc, les enseignantes qui ont participé au projet, donc je pense à Geneviève et Anne-Héloïse de l'école Saint-Albert-le-Grand et Geneviève et Anne-Marie de Saint-Jean-de-Mata. Donc, je leur remercie d'ailleurs pour leur participation, mais ont même récupéré les différents outils qu'on leur a montrés pour faire d'autres projets en classe avec les jeunes. Donc.
Mais est-ce que, si je prends l'analogie des plantes, c'est une exposition vivace ou annuelle? Est-ce que l'an prochain, parce que je remarque, c'est jusqu'au 7 octobre.
Oui.
Est-ce que...
Ça va être remonté
Ou
avec des modifs?
On vise à faire une deuxième version l'an prochain.
OK.
Donc... Pourquoi pas? Tout va bien, ben, ça a très bien été en fait ce projet, donc on aimerait le relancer pour une deuxième phase, changer un peu l'approche, mais
avec
toujours...
d'autres écoles.
C'est coûteux organiser quelque chose comme ça, Sébastien?
C'est certain que dès qu'on touche aux arts technologiques, ça prend l'équipement. Nous, la SAT, on offre des ateliers clés en main, donc on se déplace avec les ordinateurs dans les écoles, dans les classes, puis on outille les professeurs et les jeunes.
Mais est-ce que c'est le genre de produit qui pourrait être, disons, exportable? Peut-être pas le parcours, mais le principe, la façon de monter... Le projet pour, je sais pas moi, offrir ça à Central Park à New York ou...
Oui, définitivement. En fait, l'application, c'est pas nous qui créons l'application, okay, je dois dire. Okay. Donc, nous, on utilise une application qui est ouverte,
le fameux HP Reveal. Là.
Exactement. Yeah. Anciennement, Horacema, qui a changé de nom récemment. Puis, donc, oui, puis nous, c'est un peu. En fait, dans notre mandat, la SAT, c'est vraiment d'offrir un service de formation où les jeunes peuvent ensuite poursuivre. C'est vraiment des outils qui sont soit gratuits ou qui ont des versions démo pas très chères, mais quand même de qualité professionnelle. Donc, à travers nos projets comme ça, nous, c'est vraiment important de montrer aux jeunes comment utiliser ça. Puis, par rapport à la réalité augmentée, ben, ça devient très facile de faire des parcours historiques en classe avec les enseignants, de faire des chasses au trésor. On peut faire aussi des hyperliens vers des pages web. Donc, de façon plus ludique, de créer une genre de pédagogie.
Puis, est-ce que ce parcours raconte une histoire?
En fait, on a laissé libre inspiration aux jeunes, outre la contrainte de s'inspirer de la nature. On voulait voir un peu l'approche ludique des jeunes, puis les laisser libres dans la création. Puis on a eu des belles surprises, vraiment, des belles œuvres très, très poétiques, très, dans un esprit toujours très joyeux face à la nature aussi et à l'écologie. Donc,
est-ce que vous en avez une en tête?
Ah, ben c'est certain qu'on a eu un échange entre des oiseaux et des humains qui recyclent dans le parc. On a eu juste des petites... On s'entend que c'est des petites animations. C'est quand même très court. Mais il y avait beaucoup de travail derrière. Environ 10 images secondes.
Oh, okay. Quand même. Quand même.
Donc, oui, mais souvent, c'est des petites scénettes qu'on pourrait imaginer d'animaux qu'on pourrait voir vivre dans la nature.
Belle initiative. Allez sur le site de la TAU pour avoir plus de détails. Télécharger l'application et, idéalement, ben, amenez vos jeunes. Je pense que ça va leur parler du côté du parc Frédéric Bac à côté de la TAU, là, Sébastien Lafleur. Merci beaucoup.
Merci. Ça fait plaisir.
Nous, on parle rugby fauteuil roulant. C'est le championnat du monde à Sydney au mois de... Ben, en fait, dans moins d'un mois, on va rejoindre Émilie pendant qu'on écoute... qu'est-ce qu'on écoute, Jean-Sébastien?
On va écouter la formation australienne de Cat Empire.
Ah, tout est dans tout.
The Cat Empire. Émilie avec nous aujourd'hui pour parler de l'actualité de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant, puisqu'ils s'en vont bientôt, j'imagine, à Sydney pour le championnat du monde. Bonjour Émilie.
Bonjour à vous deux.
Salut Madame Bouchard-Lamontée.
Alors, beaucoup de nouveautés cette année, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Bon, on parle de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant. Comme tu l'as dit, Anne-Laure, ça va se dérouler là, les championnats du monde au début du mois d'août. Beaucoup de nouveautés au sein de l'équipe, puisqu'il y avait 5 nouveaux joueurs au sein de l'équipe canadienne présentement. Quelques raisons à ça. Bon, c'est sûr qu'on est dans un milieu de cycle paralympique. Tokyo, ça s'en vient plus rapide qu'on pense.
C'est vrai.
Donc, on essaie de la nouveauté, mais aussi un de leurs joueurs étoiles de la formation canadienne, Zach Middle, qui est en année sabbatique. Alors, ça l'ouvrait un peu de place au sein de l'équipe. Parmi ces 5 nouveaux, on peut penser à Anthony Letourneau, le seul Québécois des 5 qui a fait son apparition au sein de l'équipe nationale cette année.
Super.
Donc, il y en avait déjà 4.
En fait, il y a 2 autres Québécois au sein de la formation canadienne.
Okay.
Patrice Simard et Fabien Lavoie, qui, eux, sont au sein de l'équipe là, depuis, je pense, Patrice est depuis les Jeux paralympiques de Sydney en 2000, puis Fabien, je pense, depuis Athènes là, en 2004. Alors, c'est un peu plus vieux. Donc, on amène un peu de jeunesse.
Ben oui.
Et un nouveau aussi au sein de la formation de l'équipe canadienne, mais à la tête de l'équipe à ce moment-là, Patrick Côté, qui lui occupe le poste d'entraîneur-chef là, depuis presque 2 ans maintenant.
Est-ce que ce championnat du monde permet justement de se qualifier pour Tokyo? Parfois, il y a des tournois comme ça qui, disons, te donnent plus qu'un championnat ou un podium.
Ça sera l'une des... Il va y avoir en fait une place disponible. Les champions du monde qui seront couronnés en Australie seront qualifiés d'office pour les Jeux paralympiques à Tokyo. Mm-hmm. Pas ce que le Canada vise pour l'instant, donc ça va attendre un petit peu au niveau de la qualification paralympique pour les athlètes canadiens. Ça risque de se décider au niveau des jeux parapanaméricains qui vont avoir lieu à Lima l'année prochaine. Puis on est encore dans le questionnement à savoir combien, parce que comme c'est des places qui sont distribuées selon les continents. On ne sait pas encore la zone des Amériques, combien de places vont être attribuées à la zone des Amériques, puisque initialement, c'est souvent deux places qui sont disponibles, mais là, comme il y a quand même un peu plus de profondeur au sein de plusieurs équipes là, de l'Amérique du Sud, ça se pourrait qu'il y ait plus que deux postes disponibles pour Tokyo.
Bon, Émilie, c'est un gros envolé, un peu comme Wimbledon a un tournoi sur gazon tout juste avant en Angleterre. Est-ce qu'il y a des tournois préparatoires dans l'hémisphère sud pour permettre aux gens de s'habituer si jamais l'eau ne tourne pas du même côté dans la salle de bain et le décalage et tout?
Les Canadiens, principalement, eux, sont allés l'année dernière pour un tournoi préparatoire, en fait, en vue de ces championnats du monde-là. Donc, on peut toucher à l'eau de l'Australie, voir si c'est la même chose qu'ici. Mais plus récemment, ils ont accueilli l'Australie comme l'une des nations lors de la Coupe Canada qui a lieu en Colombie-Britannique le mois dernier, où alors les quatre meilleures nations au monde là, se sont donné rendez-vous. L'Australie, entre autres, qui est championne paralympique et championne du monde en titre, mais aussi les États-Unis, le Japon, qui complétait le podium là, il y a 2 ans aux Jeux paralympiques de Tokyo. Donc, il y avait plusieurs grandes nations en action à la Coupe Canada.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait là à ce dernier tournoi, nos Canadiens?
Ils ont terminé quatrième. C'est une belle progression pour l'équipe. Bon, j'en parlais en début de chronique. 5 nouveaux joueurs au sein de l'équipe, un nouvel entraîneur-chef. Alors, ce qu'on vise, évidemment, là, c'est des médailles au grand championnat. À Tokyo, évidemment, en 2020, au championnat du monde, on vise une belle performance. Aux Jeux parapanaméricains l'année prochaine, puisque ça risque d'être une séance de qualification pour les Jeux paralympiques. Alors, on allait chercher de l'expérience, tester les alignements, voir les nouveaux athlètes qui ont percé la formation dans la dernière année, où ils se situaient, comment ils affrontaient les meilleurs joueurs au monde comme face à l'Australie, les Américains, les Japonais. Alors, c'est toutes des choses que Patrick Côté, l'entraîneur-chef, est allé tester pour ensuite penser un peu, excusez-moi l'anglicisme, là, mais au big picture qui va être les championnats du monde cette année, les Jeux parapanaméricains l'an prochain, puis finalement à Tokyo.
Émilie, je me trompe ou c'est un sport mixte?
C'est un sport mixte, effectivement. Au sein de l'équipe canadienne, je crois qu'on a une femme, si je ne me trompe pas, c'est pas une Québécoise, donc j'ai pas son nom prêt, mais oui, il arrive qu'au sein des formations, là, il y a certaines femmes qui se joignent au lot.
D'ailleurs, bon, est-ce que tu peux nous aider avec le système de pointage? Ou c'est moins toi, ça?
Ben, je peux. Je rentrerai pas dans les détails parce que ça reste quand même un peu complexe, ouais. Mais le nombre de... au niveau des équipes nationales et tout ça, c'est des pointages normaux. Plus que notre handicap est élevé, plus que notre pointage va être, comme athlète, va être bas. Et plus que notre handicap est un peu plus léger, plus que notre pointage va être va être un peu plus haut. Donc, on parle, je pense, là, d'un pointage de 0.5 ou 1 à 5. Et ensuite, il y a un maximum de points qui doit évoluer au sein de l'équipe en même temps sur le terrain. Donc, il faut vraiment que ce soit un mélange entre les positions, avoir des attaquants, des défenseurs, mais aussi, c'est important en termes de pointage, de respecter le pointage maximum.
Est-ce que les femmes et les hommes sont notés de la même façon ou un peu comme les salaires? La femme qui est moins handicapée va quand même avoir moins de points ou fournir moins de points sur le terrain que l'homme plus handicapé?
J'aime un risque, mais je crois que c'est une différence de 0.5 points pour la femme versus l'homme. Comme c'est un sport mixte, admettons que toi et moi, Luc, on aurait complètement le même handicap, probablement que je serais évaluée comme un handicap un peu plus lourd. J'aurais un 0.5 de moins que toi si on jouait en même temps, si on était, mettons, au même handicap sur le terrain.
Et pourtant, tu es tellement plus mature.
Je pense que c'est ça la règle.
Ouais. OK. Donc, il n'y a pas de tournoi avant le 4 août, c'est ce que je comprends?
Non, le dernier vraiment tournoi préparatoire, c'était le mois dernier en Colombie-Britannique. Là, pour l'instant, le Canada, en vue de la finition de leur préparation en vue des championnats du monde, sont centralisés en camp d'entraînement. Cette semaine, ils sont à Toronto. La semaine dernière, ils étaient à Montréal, à l'Institut national du sport, près du stade olympique. Puis ensuite, un petit peu de repos, un petit peu de passage dans les familles, là, avant de partir quand même assez d'avance là, vers l'Australie, justement, pour s'acclimater à leur... Alors, environnement là-bas, combattre le décalage horaire et tout ça, bien se reposer en vue d'être prêt pour les championnats du monde.
Et les nations à surveiller sur place?
Mis à part l'Australie, là, évidemment. Ouais.
En plus qu'ils jouent chez eux, j'imagine là, que ça va être une bonne dose d'énergie. À la Coupe Canada, par exemple, ils ont fini troisième. Les Américains et les Japonais, c'est eux qui se sont battus pour la finale. Donc, ça va être peut-être à surveiller. Peut-être que les pays, le top 3, là, ça va être assez serré. Bon, comme je disais, les États-Unis et le Japon, ça va être les autres. C'est les deux autres équipes qui étaient sur le podium aux Jeux paralympiques de Rio.
D'accord.
Alors, ça reste à voir à ce niveau-là. Sinon, ben, les Canadiens, quatrième à Rio, quatrième à la Coupe Canada. Donc, ils sont vraiment pas très loin derrière. Ils avaient fini deuxième là, lors des derniers championnats du monde qui avaient lieu il y a 4 ans au Danemark, je me souviens bien.
Et je présume que ce sera sur le DSN, mais on regardera puis on vous dira ça, là, les gens qui sont intéressés, parce que de plus en plus, il y a des compétitions intéressantes et importantes qui sont diffusées sur le web. Donc, si vous avez envie de rester debout la nuit, je présume que ce sera disponible sur Disability Sports Network sur le web. Puis sinon, ben, on lira Émilie Bouchard-Labonté et ses collègues qui vont nous dire ce qui arrive. Merci, Émilie.
C'est vraiment un sport de contact super intéressant.
Ah oui.
Donc, on a l'occasion d'en voir, c'est vraiment intéressant à regarder.
Super, merci beaucoup. À bientôt.
Bonne journée.
Émilie Bouchard-Labonté, qui est gestionnaire de projet et rédactrice du côté de Sportcom. Des gens différents, c'est le mandat qu'a Emmanuel Robitaille. Elle nous en présente une après la pause. Thank you.
Vous écoutez Aime l'été.
Viens-t'en avec mes aïeux. Ben oui, Emmanuel Robitaille qui a décidé comme ça de nous présenter des gens différents, des gens qu'elle a peut-être rencontrés ou dont elle a entendu parler. Elle s'est promenée à gauche, à droite. Elle en a invité qui sont venus ici parfois. Et aujourd'hui, on découvre Sophie Trottier, qui est une femme chamane autochtone.
Oui, bonjour tout le monde, c'est Emmanuel. Et oui, cette semaine, pour ces gens différents, on parle de mode de vie différent en allant faire un tour dans une communauté qu'on connaît beaucoup, mais qu'on connaît également assez mal, la communauté autochtone. Et non seulement ça, on discute avec Sophie Trottier, elle-même chamane et femme médecine, qui nous parle de ce que c'est d'être une chamane femme au quotidien ici au Québec. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien toi-même.
Oui, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi de me l'avoir offert.
Bien, écoute, ça me fait plaisir parce que être chamane au Québec, on s'entend que c'est assez singulier.
Effectivement, c'est peu commun.
Comment ça arrive dans notre vie à être chamane? Parce qu'on va se le dire, il y a encore quelques années, ton mode de vie était tout à fait autre chose. Je veux dire, tu as été 15 ans paysagiste, tu as touché au monde de la comptabilité. Tu avais un mode de vie ordinaire, si ça existe. Comment ça se fait, ce tournant-là?
Ben écoute, moi, je te dirais que j'ai senti un premier appel à la fin de ma carrière de paysagiste parce que j'ai eu des problèmes de santé qui étaient attachés. Là. Bon, par exemple, de l'arthrite, c'est l'usure des os. C'était venu me dire dans ma vie, dans mon cœur, qu'il fallait que je change. Mais moi, j'ai pas compris ce premier appel-là au début. Fait que je suis allée étudier en comptabilité. J'ai fait à peu près un an et demi là-dedans et j'ai jamais eu autant de problèmes de santé qu'assis en arrière d'un bureau. Et là est arrivée une abolition de poste. Je me suis retrouvée en année sabbatique et c'est là que j'ai senti vraiment en dedans de moi que ce que je vivais déjà en parallèle, j'avais besoin de le vivre à temps plein.
Oui, parce que des fois, il faut aller vers qui nous ne sommes pas pour se rapprocher de qui nous sommes. Et avec tes racines autochtones, je veux dire, c'est au contraire extrêmement en cohérence.
Oui, effectivement. J'avais déjà un peu cette vie-là au quotidien, mais j'ai pu, dans cette année sabbatique-là, j'ai pu l'arrimer de façon complète, là, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est une vocation, mais à la base, c'est un mode de vie qui est différent.
Mais justement, c'est quoi être une chamane? C'est quoi au quotidien être une chamane?
Ben écoute, le titre, c'est une chose, mais les responsabilités au quotidien, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Je te donnerai un exemple avec la nourriture, parce qu'on parle d'un mode de vie différent. Moi, je ne mange plus de viande de grands élevages parce que ça ne respecte pas les valeurs chamaniques autochtones. Je te donnerai un exemple avec quand, mettons, je vais prendre une plante médicinale. Je vais aller cueillir une plante médicinale en forêt. Je ne prends jamais toute la plante pour lui permettre de se reproduire et de respecter son rôle dans la nature. L'abattage de masse des animaux, c'est la même chose pour moi. C'est comme si on prenait tout. Et puis, moi, ça ne fait plus partie de mes valeurs.
Mm-hmm.
Donc, au niveau de la nourriture, la viande de grands élevages, ça ne respecte pas mes valeurs.
Et là, tu l'as nommé, tu vas cueillir des plantes médicinale, tu concoctes également des huiles qui guérissent. C'est quoi la
oui.
différence? Parce que là, tu te nommes chamane, femme, médecine. Est-ce qu'il y a une différence?
Femme, médecine et chamane, c'est la même chose.
Okay.
Par contre, dans la croyance populaire, quand on porte le titre de femme, médecine, ça a une connotation de prendre soin, comme mm-hmm. le rôle d'une mère vis-à-vis mm-hmm. des enfants. Mm-hmm. Tandis que le mot chaman, malheureusement, dans la croyance populaire, c'est encore associé à une espèce de sorcier ou d'homme charlatan qui va aller sortir des démons, par exemple. Fait que mm-hmm. moi, j'utilise les deux, mais j'utilise femme médecine pour pouvoir expliquer aux gens et démystifier.
Bien, si tu l'as nommé, je veux savoir la vision des gens quand tu te nommes, quand tu nommes ta vocation, quand tu nommes ce que tu fais au quotidien, ça peut rebuter des gens.
Effectivement. Par exemple, on parlait d'implication au quotidien. Quand je m'en vais à la banque pour du financement, là, puis que je fais une demande de prêt, quand tu es chamane et autochtone en plus, imaginez-vous que ça demande beaucoup de créativité pour arriver à ses fins. Là.
Ça passe moins bien.
Effectivement.
Pour un prêt bancaire, mais effectivement. Et quand tu te lèves en tant que chamane, c'est quoi une journée type pour toi? Comment tu incarnes ça?
Bien, ça commence toujours par la gratitude, premièrement, parce que j'attache souvent cette notion-là, puis je l'explique souvent de cette façon-là. La Terre, elle n'a pas besoin de l'humain pour fonctionner.
Mm-hmm.
En revanche, nous, on dépend d'elle. J'ai un toit sur ma tête qui est fait avec des matériaux de la nature. J'ai de la nourriture dans mon assiette. Que ce soit de la viande, que ce soit une plante, j'ai besoin de la vie pour me nourrir puis me loger. Fait que ça commence toujours par une gratitude. Quand je vais manger quelque chose, c'est comme ça. Quand je vais aller cueillir les plantes médicinales, c'est comme ça aussi. Quand je vais pouvoir profiter, parce que je reste un kilomètre dans le bois, profiter de cette nature-là, c'est une gratitude pour moi. Fait que ça commence comme ça, une journée de chamane. Ça commence en gratitude, en méditation, en remerciement, puis en imaginant là, toute la beauté qui est autour de nous. Là.
Et tu passes beaucoup de temps à l'extérieur, on va se le dire.
Oui, effectivement. Je tends beaucoup vers mon autosuffisance. Fait que, surtout l'été, je vais cueillir des plantes que je peux manger qui sont dans les alentours, comme par exemple de l'ortie. des quenouilles. Ça se mange, c'est très nutritif. J'ai un jardin aussi où je rapatrie plusieurs plantes médicinales dont je dois m'occuper pour pouvoir faire mes remèdes. Fait que oui, je peux passer plusieurs heures par jour. Même quand il mouille, je passe au moins 1 à 2 heures par jour dehors.
C'est ça, c'est pas la température qui t'arrête, là. Au contraire, c'est ton ami, tu fais avec.
Oui, puis je récolte l'eau de pluie qui me permet d'arroser mon jardin. Donc, tu sais, on parle de vivre autrement, c'est vraiment de s'arrimer au quotidien avec ce que la nature nous offre, là.
J'aimerais savoir, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas et qui nous surprendrait d'une chamane?
C'est une belle question. Bien, écoute, je suis encore assez normale pour payer mon hypothèque.
Okay? T'as des comptes d'hydro, toi, là.
Oui, OK. Je ne vis pas dans un tipi, pas d'électricité, comme il y a certaines personnes qui pensent. Hein? Fait que j'ai un toit sur ma tête.
Il y a des gens qui pensent ça? Il y a des gens qui pensent que tu habites dans un tipi?
Ah, effectivement, j'ai des Européens qui veulent venir ici au Canada me visiter, puis ils m'ont demandé, est-ce que tu as un autre tipi où je peux dormir? Fait que moi, j'ai demandé, OK, pourquoi? Ah, ben non, je vis dans une maison, moi.
Tu vis dans une maison et t'as un conjoint, t'as un enfant, t'as une maison réelle, t'as des habitudes de vie aussi qui sont pas nécessairement seulement manger cru et manger et boire d'amour et d'eau fraîche, là, je veux dire.
Effectivement, j'ai encore des vendredis que j'appelle les vendredis où je me permets une coupe de vin avec de la musique en faisant à manger, par exemple. Je suis encore assez normale pour ça, là.
J'aimerais savoir, en terminant rapidement, ta mission et ton leg. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ceux qui nous écoutent actuellement dans tes valeurs profondes?
Ce qui est important pour moi, c'est vraiment le respect de toute la vie, de soigner, de vivre et d'évoluer grâce aux esprits de la nature. Les esprits de la nature, pour moi, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est l'eau, c'est la terre sur laquelle on vit aussi.
Donc, de remettre l'esprit et une âme à tout ce qui nous entoure. Merci, Sophie, d'être venue nous partager ce mode de vie exceptionnel et fascinant. Merci infiniment.
Merci à toi.
Et merci, Anne-Laure, et merci, Luc.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire. Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Serge Gainsbourg, avec Chanson de Prévert, et comme Jean-Sébastien le disait, lui qui a choisi la pièce, c'est parce qu'il pensait à M. Bradette. Il dit, on va aller d'un Serge à l'autre. Salut Serge.
Merci, belle présentation. Hey.
On jase d'histoire aujourd'hui, mais en fait, d'histoire, de toponymie, de coin du Canada, qu'on connaît peut-être un peu moins.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. On m'a suggéré de parler du Canada. Ça a commencé d'abord par la toponymie, les noms, pourquoi une ville s'appelle... par ce nom-là, puis une province s'appelait par ce nom-là, puis le Canada aussi s'appelle le Canada. J'ai fait des recherches, tout ça, et puis j'ai élargi un peu. Je vais vous parler donc au cours des... On a 9 chroniques. J'ai 9 chroniques avec vous, et c'est très généreux. Merci beaucoup.
Yeah, on aime ça.
Alors c'est ça, j'ai séparé ça. Aujourd'hui, cette semaine, c'est Terre-Neuve et Labrador. Semaine prochaine, j'ai regroupé Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Et on va de l'Est à l'Ouest, parce que c'est comme ça qu'a été découvert, colonisé, civilisé ce pays, ce grand pays.
Est-ce qu'on va toucher au territoire? Parce qu'on les connaît tellement peu, mieux.
Exactement. Oui, c'est ça. Parce que moi-même, je faisais ma liste, puis j'étais rendu, j'ai oublié le territoire du Nord-Ouest, le Yukon, tout ça. Là. On en parle. J'ai gardé une période pour ça. En 9 semaines, on devrait être correct.
Bon, là, le Labrador, c'est laquelle? C'est Victoria qui a donné le Labrador à Terre-Neuve?
Non, c'est pas Victoria, ça. C'est dans les années 1920 ou 30 à peu près, là, j'ai un petit blanc.
Donc, ce serait Elisabeth Heure?
Non, ce serait Georges V.
Laisse-y parler, Luc.
Georges V, à peu près. Oui, c'est ça, c'est un jugement parce que le Québec et le Terre-Neuve se disputaient cette partie-là. Et puis, écoutez, quand on regarde une carte, là, c'est bien simple. Le Labrador est au Québec, là, c'est dans le continent. Mais le jugement de la Cour, c'est un jugement qui, aujourd'hui, ne pourrait plus se faire, ça créerait une crise constitutionnelle. Là,
ils ont eu un plus gros morceau que ce qu'ils avaient.
Oui, absolument. Ouais. Alors, ça a été octroyé par la Cour en Angleterre, là, la Cour du Commonwealth, quelque chose comme ça. Mmh. Alors, c'est ça. Alors, donc, Terre-Neuve et Labrador. Terre-Neuve et Labrador, en anglais, Newfoundland and Labrador, c'est une province du Canada située à l'extrême-est du pays et faisant partie des provinces atlantiques. Quand on nomme province de l'Atlantique, ça inclut Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Mais quand on parle des maritimes, ça inclut les 3 provinces, mais pas Terre-Neuve.
Pas Terre-Neuve.
Alors, en 2016, la population de la province de Terre-Neuve était de 519 716 habitants.
Seulement.
C'est petit.
Ah, c'est pas grand. Mm. Et environ 92% de la population vit sur l'île de Terre-Neuve, le reste étant au Labrador. Et c'est situé, la moitié de ces 92%-là est sur la péninsule d'Avalon, qui est la plus grosse la partie sud de... Alors, elle possède sa propre variété d'anglais. Parce qu'évidemment, ils ont été toujours isolés. C'est une île complètement dans l'Atlantique. Alors, un peu comme au Québec, où aux États-Unis, vous avez le slang américain.
Donc là, on parle de langue anglaise.
De langue anglaise, oui.
Ah, puis l'accent.
L'accent, oui.
L'accent est très prononcé.
Apparemment, oui. Alors, sa capitale est la plus grande ville, et sa plus grande ville, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Saint-Jean-de-Terre-Neuve est la 20e plus grande aire métropolitaine au Canada et abrite 40% de la population de Terre-Neuve.
Wow.
Alors, c'est une ancienne colonie britannique et un éphémère dominion indépendant. Et Terre-Neuve ne fut rattachée au Canada qu'en 1949. Mm-hmm. Ça a été la dernière province.
J'imagine alors qu'on t'a posé cette question-là quand tu es devenue citoyenne. Quelle est la dernière province?
Probablement.
Ouais.
Est-ce que, maintenant, on sait pas mal tous que les Vikings sont les premiers qui sont arrivés ici autour de l'an 1000. Mais pensez-vous qu'il n'y a eu personne d'autre avant?
Avant les
Vikings. Je vous ai là.
Les Basques, c'est après.
Ouais. Mm-hmm.
Donc.
À l'ère préhistorique?
Ouais. Ça remonterait. Étonnez, vous êtes bien assis tout le monde. Les premiers signes de la présence humaine à Terre-Neuve datent d'environ 6000 ans avant Jésus-Christ.
Ah ouais.
Ouais, et relève de la civilisation archaïque maritime, culture de pêcheurs et de chasseurs d'animaux marins. On note le développement du travail du bois, de tombeaux à tumulus, au site de l'Anse Amour, entre autres, et un usage abondant de l'ocre rouge sur les côtes des provinces maritimes actuelles et de Terre-Neuve. Cette civilisation s'éteint vers moins 2000 avant Jésus-Christ, peut-être à la suite de la submersion du plateau continental à cette époque.
Donc, il n'y a plus de traces de cette civilisation?
Non. En fouillant, ils ont trouvé des choses, mais écoutez, c'est vraiment...
Pas de fresques.
Non. Vers 850 avant Jésus-Christ, toujours, arrivent les paléo-inuits qui occupent l'île durant environ 700 ans. D'origine asiatique, ces Inuits ont émigré il y a plusieurs milliers d'années en traversant le détroit de Bering.
C'est ça.
Mm. Oui, d'ailleurs, les Indiens aussi d'Amérique du Nord.
Ils sont passés par là.
Oui. Également, probablement, possiblement aussi, les Incas, les Aztèques seraient arrivés par le détroit. Pas du Bering, oui. Okay. C'est une autre chronique, ça. Maintenant, les Vikings. Ouais. Les côtes de Terre-Neuve furent explorées pour la première fois par des Européens au début du 10e siècle. Et en effet, des vestiges de Vikings ont été retrouvés à l'Anse aux Meadows, à l'extrémité nord de l'île, à la suite des fouilles menées par un Norvégien, Helge Ingstad, et son épouse, Anne Steen, en 1960. La première expédition clairement documentée date de 1497, quand le pilote vénitien naturalisé anglais Jean Cabot, certains disent Cabot, explore la région pour le compte de l'Angleterre et découvre les grands bancs de morue de Terre-Neuve. La pêche et l'exploitation des richesses naturelles marqueront le développement de l'île jusqu'à nos jours. Et c'est là, avec Cabot, qu'on a le nom de Terre-Neuve. C'est que le roi Henri VII, qui avait dépêché Cabot, appelait la terre découverte par Cabot la Newfoundland. Land, L-A-U-N-D-E, qui signifie « terre nouvellement découverte », alors « Terre-Neuve », est devenue Newfoundland. En 1502, les pêcheurs anglais commencent à fréquenter les bancs de Terre-Neuve, suivis par les Normands en 1506. Ensuite, il y a eu les Bretons, etc. Là, pour avoir le temps, il reste combien de temps à peu près?
Oh, on a encore un bon 5 minutes.
5 minutes, ah bon, parfait. Okay.
On a plus de temps que de poissons sur les bancs.
Ah, OK, d'accord. Donc, le premier récit historiquement documenté, celui de l'explorateur Cabot, qui accosta à Bonavista en 1497 et prit possession de Terre-Neuve au nom de la couronne d'Angleterre. Humphrey Gilbert établit, c'est un monsieur qui établit un poste de pêche en 1583 à Saint-Jean, entamant le processus de colonisation de l'île. Les Basques pêchaient donc les bancs de morue, comme je l'ai dit, et en 1655, la France installe un gouverneur à Plaisance, commençant une tentative de colonisation française de l'île. Parce qu'Amérique du Nord a toujours été
entre les deux,
France et Angleterre. Mais celle-ci fut un échec suite au traité d'Utrecht, qui a mis fin à la guerre de succession d'Espagne en 1713. Et selon les termes de ce traité, la France a renoncé à l'île de Terre-Neuve, ainsi que celle portant sur les côtes de la baie d'Hudson, et confirme la possession de celle-ci par la Grande-Bretagne. Les territoires français d'Acadie y sont aussi cédés aux Britanniques. Et par la suite, la population française de Plaisance se transféra à l'île Royale, qui est aujourd'hui l'île du Cap-Breton. Fraction d'Acadie restée française jusqu'à la guerre de 7 ans et marquée évidemment par la tragique déportation des Acadiens. Alors, donc c'est en 1949 a lieu un référendum parce que plusieurs fois les Terre-Neuviens avaient refusé d'adhérer au Canada, entre autres en 1867 par référendum, et c'est en 1949 qu'il y a eu un référendum très très serré, 52% de oui et 48% de non. Ouais. Alors ils se sont... ils ont joint la Confédération. Les principales îles de villes de Terre-Neuve, vous avez St. John's, la capitale,
oui.
Grand Falls, Windsor, Labrador City, Chanel Port-aux-Basses, ça j'aime le nom, Stephenville, Clarenceville, Placentia, etc. La ville de Saint-Jean-Terre-Neuve. Alors, Saint-Jean-Terre-Neuve en anglais, c'est St. John's, mais localement, on prononce St. James.
Ah.
A-N-Z, Saint-James.
Okay.
C'est la capitale et la plus grande ville, évidemment, de Terre-Neuve et Labrador.
Ça, c'est l'accent anglais qui... L'accent anglais local?
L'anglais local, Saint-James.
Okay.
Saint-John's en anglais, Saint-James. Je sais pas si je le connaisse bien, là. Figurant sur les cartes dès 1519, le site de Saint-Jean est l'un des plus vieux établissements européens du Nouveau Monde. D'ailleurs, il n'existe pas de preuves irréfutables sur la date de fondation de la ville. L'explorateur vénitien Cabot déclare dans un texte en latin daté de 1547 que le lieu est nommé Saint-Jean depuis que lui et son père, Jean, sont devenus les premiers Européens à entrer dans le Havre. Donc, et c'était la fête de la Saint-Jean, c'était le matin du 24 juin 1497. Alors, ils ont appelé ça Saint-Jean.
Pourquoi
ouais,
pas?
Ouais. Ouais, c'est sûr, des raisons très simples, hein,
ouais.
Pour nommer des villes. C'est une fête ou en l'honneur du roi ou de la femme du roi.
Et Chanel part au Basque.
Je vais vous dire tout à l'heure.
Ouais.
Au Canada, un débat subsiste sur l'antériorité de Saint-Jean sur la ville de Québec. Le débat commence. Les deux villes pouvant être considérées comme les anciennes du pays. L'historien Jack Grandstein affirme en 2008 dans le Ottawa Citizen que Saint-Jean est incontestablement plus vieille que Québec.
Pavé dans la mort.
Ouais. Par contre, Jacques Lacourcière n'est pas du même avis. Selon lui, il n'y a pas eu un jour depuis 1608 où il n'y a eu une personne sur le territoire de la ville de Québec. Parce que vous avez beau fonder une ville, partir, revenir au bout de 2 ans, 3 ans, tout ça, alors que Québec a toujours eu quelqu'un depuis 1608. Donc, ce serait Québec la plus ancienne ville.
OK.
Oui, en raison de sa position géographique, Saint-Jean est connectée au réseau télégraphique mondial dans les années 1860.
C'est vrai.
Et le 12 décembre 1901, elle reçoit un premier signal télégraphique sans fil en provenance de la Grande-Bretagne. Et le premier vol transatlantique sans escale, en 1919, est réalisé depuis Saint-Jean vers Clifton en Irlande. Donc, ce sera avant Lindbergh.
Ah, ouais.
Parce que Lindbergh, lui, c'était les États-Unis et l'Europe.
Serge, on entend souvent parler de gander.
Oui.
C'est situé où sur l'île?
Je pense dans le bas complètement.
OK, dans le
Gander, oui, oui, oui. Lansome Meadows. En anglais, meadow signifie prairie. Voilà. Il s'agit cependant peut-être d'une... Bon, là, ça c'est le fun, de voir comment les noms, ça se promène. Bon, le site maintenant connu sous le nom de Lansome Meadows est d'abord attesté sous la forme Lance à la Médée sur une carte maritime française datant de 1862. Le toponyme faisant probablement référence à un vaisseau de haute mer nommé d'après la figure mythologique grecque de Médée, on va loin, ce qui était un nom typique pour les navires de ce type à l'époque. La crique faisant face au village moderne de Lance-aux-Meadows porte toujours le nom de baie de Médée. Bon, l'étymologie du village de Lance-aux-Meadows n'est pas connue avec certitude. Parc Canada, qui gère le site, affirme que le nom actuel a été anglicisé à partir de Lance à la Médée, forme attestée, par des colons anglophones qui sont installés dans cette région. Une autre possibilité est de voir dans Lance aux Meadows une anglicisation de la désignation française Lance aux Méduses, de manière conjoncturelle, car il semble que ce nom ne soit pas attesté. Le passage de Méduses à Meadows, prairie, ayant pu être motivé par la topographie du lieu, qui consiste en effet en un paysage ouvert. Puis vous vouliez, en terminant... Port au Basque.
Chanel Port au Basque, oui.
Oui. Ben, c'est très simple.
Ouais.
La ville doit son nom aux chasseurs de baleines basques qui, dès le 16e siècle, venaient dans cette région.
D'accord.
Et dans les années 1500, une flotte basque s'est installée ici et a construit un port en eau profonde pour établir un centre de commerce du poisson. Puis Chanel, c'est le détroit.
Chanel.
Ah, okay. Ben, ouais, Chanel au Basque.
Merci, Serge.
OK, plaisir.
Intéressant. Merci. À la semaine prochaine.
Mm-hmm.
Et donc, c'est ainsi que se termine cette émission. Très, très chaude, Luc?
Oui.
Merci à tous.
Il y aura un M l'été demain. Et nous, on se retrouve lundi.
C'est ça. À bientôt.